Comme annoncé ce matin, donc je vais vous parler du baptême ce soir, parce que nous avons de temps en temps des sujets doctrinaux que nous devons apporter un peu le matin ou le soir, selon les saisons dans la vie de l'Église et selon les besoins, et nous allons commencer dans 15 jours les préparations au baptême. Nous avons déjà toute une série de personnes inscrites, et ce soir vous pouvez écouter ce message et vous poser vous-même les questions par rapport au baptême. Ouvrez la Bible avec moi, donc on va prendre les textes de base par rapport au baptême. Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Nous allons parler des textes fondamentaux qui sont la base de ce que nous devons connaître. Donc ce que je vous dis ce soir, si vous saisissez dans les 25 minutes de prédication ce soir ou éventuellement 30 minutes, si vous saisissez l'essentiel, vous pouvez reprendre cela en peu de mots et je dirais en 10 minutes, vous pouvez expliquer la même chose à quelqu'un qui a besoin de s'informer sur le baptême. Chacun de vous est capable de le faire. Pas besoin de demander, pasteur, expliquer à cette personne ce que veut dire le baptême. Vous pouvez le faire vous-même si vous écoutez soigneusement ces quelques points. Matthieu 28 nous ramène tout à la fin de l'évangile au parole finale de Jésus, juste avant de monter au ciel. Il va dire des choses extrêmement importantes qui sont à saisir dans l'ensemble de leur portée. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer ou à garder ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc là, nous voyons déjà que le Seigneur donne un premier ordre. Après avoir dit que c'est lui qui a tout pouvoir, il va donner un ordre premier, allez. Nous ne sommes pas là juste pour rester dans une église, mais aussi pour tendre la main vers quelqu'un, pour aller vers quelqu'un, pour nous intéresser aux gens et pour leur parler de la meilleure des nouvelles qui existent, la bonne nouvelle, de l'amour de Dieu pour nous, mais aussi de faire des gens que nous contactons, des nations, pour faire des gens qui ont besoin d'entendre l'Évangile, des disciples, de ceux qui vont suivre l'enseignement et l'exemple du Maître, Jésus. Suivre l'exemple et l'enseignement du Maître, suivre ses traces. Et s'ils sont d'accord de suivre les traces, alors vous allez marquer et sceller cet engagement de disciple, cette vie attachée au Maître par le baptême qui va se faire au nom de Jésus, selon les actes, ou au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Ce n'est pas la formule qui est le plus important. Si vous baptisez au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on ne va pas faire un grand débat théologique là autour. Simplement, c'est être baptisé de la part du Seigneur, dans le nom du Seigneur, dans la présence du Seigneur et en étant attaché avec lui. Il faut comprendre cela, c'est ce que nous allons faire ce soir. Dans Marc chapitre 16, verset 16, qui est le deuxième texte de base, facile à retenir, 16-16, Marc 16-16, nous sommes de nouveau tout à la fin de l'Évangile. « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc ici, nous avons clairement l'autre aspect du baptême, c'est la foi qui précède le baptême. Croire d'abord, être baptisé ensuite. Mais celui qui refuse de croire, refuse de se confier, refuse d'être fidèle au Seigneur, eh bien, il prend le risque d'être finalement condamné. Il n'est pas dit « celui qui n'est pas baptisé sera condamné ». D'accord ? Ça, ce n'est pas dit. Donc, il ne faut pas dire que si on n'est pas baptisé, on est forcément condamné. Ça, ce n'est pas juste. Mais celui qui ne croit pas, qui refuse de placer sa confiance dans le Seigneur alors qu'il connaît le Seigneur, qui sait que Jésus est le Sauveur, celui-là se met en danger d'être condamné. Le baptême est donc, en fait, la face publique de la foi du cœur. Si vous croyez dans votre cœur, il y a une deuxième démarche à faire. C'est une manifestation de la foi engagé de manière publique. L'Épître aux Hébreux va dire que dans les fondements Eh bien, le baptême fait partie des bases, des fondements. Donc, ce sont les premières choses que le nouveau chrétien va faire. C'est quelque chose qu'on ne doit pas tarder. Et ce sera aussi mon mot tout à l'heure, à la fin, je vais prendre un texte où l'apôtre Paul va lui-même recevoir cette injonction et cette exhortation. Pourquoi tardes-tu ? Fais-toi baptiser maintenant, c'est le moment. Et puis nous voyons que tout cela a été mis en application très rapidement par la première église. Regardez avec moi dans Actes, chapitre 2, démarrage de l'église le jour de Pentecôte. Nous lisons verset 37. Ils ont entendu la prédication de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous, c'est le numéro 1, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, point 2, pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc il y a une suite qui est donnée comme base, il y a une espèce d'ordre du jour qui est donné, repentance, c'est-à-dire se détourner des choses mauvaises, se détourner de ce qui ne va pas et s'aligner selon la volonté de Dieu, et ensuite être baptisé pour marquer pour cet engagement, pour ne plus revenir en arrière. Ça, c'est aussi un pas important dans le baptême, c'est qu'on marque publiquement un changement et on ne revient plus en arrière là-dessus. Le baptême est un pas important qui doit être réfléchi parce qu'il a bien sûr des conséquences bénies pour la vie de chacun d'entre nous. Et puis ensuite, les premiers chrétiens se font baptiser, ils sont 3000 du premier coup. Et nous voyons ensuite dans les actes, dans le livre de la première église, les actes des apôtres, toute une série de baptêmes qui vont se faire. Et il y en a 9 que vous pouvez lire, 9 services de baptême que vous pouvez lire, acte 2, acte 8, acte 9, acte 10, acte 16, acte 18, acte 19. Vous pouvez lire ces textes, ça se trouve très facilement. Et nous voyons dans tous ces moments de baptême qui ont lieu à Jérusalem, qui ont lieu en Samarie, qui ont lieu dans les villes où l'apôtre Paul va être, à Philippe, il va être aussi à Éphèse, etc. Et partout, on voit que les gens étaient d'abord... Il y avait d'abord une démarche de foi personnelle et d'engagement dans le baptême ensuite. La foi précède le baptême. Le baptême n'a donc rien de magique. Par contre, c'est un acte hautement spirituel, hautement fort, hautement puissant. Toujours la foi, le baptême ensuite. Lorsque vous lirez dans ces textes, il y a en tout cas 2 textes qui nous montrent que dans la maison de Lydie et dans la maison de Corneille, toute la maisonnée s'est baptisée. Mais lorsque l'on voit les textes de plus près, on ne peut pas déduire, comme font certains, qu'il y avait là au milieu aussi des enfants qui ont été baptisés avec les adultes. Car l'ensemble de la parole ne nous permet pas de dire cela. Et les enfants, nous les présentons au Seigneur, nous ne les baptisons pas, puisque la foi précède le baptême. Un enfant n'a pas encore l'expression publique de sa foi, ça viendra plus tard. Donc c'est pour cela que nous ne baptisons pas les petits bébés. Donc le baptême est premièrement quoi ? Un acte d'obéissance à Matthieu 28, à Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis ensuite, on continue à être enseigné afin d'accomplir toute la volonté de Dieu. C'est un acte d'obéissance. Et ce que j'aime dire dans les cours de baptême, c'est que rien que cet élément-là devrait nous suffire. Rien que le fait que le Seigneur me demande d'obéir, pas parce que je suis obligé, mais par amour, parce qu'il m'attire, parce que je veux lui faire plaisir, je veux faire sa volonté. Seigneur, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux faire ? On est proactif et on veut faire sa volonté. Dans cette mesure, un acte d'obéissance pour faire la volonté de Dieu doit être suffisant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? L'obéissance au Seigneur, c'est une priorité. Ce n'est pas quelque chose qui est laissé à notre libre appréciation, qui se discute. Non, un acte d'obéissance est toujours prioritaire pour le Seigneur. Donc, depuis le premier siècle, on n'a jamais arrêté de baptiser. Quand vous regardez l'histoire de l'Église, il y a eu énormément de discussions au sujet du baptême, mais il y a aussi énormément de gens qui ont payé un prix fort pour le baptême. Encore aujourd'hui, lorsque, par exemple, dans les pays comme en Chine ou en Inde, eh bien, lorsque vous prenez le baptême, vous prenez réellement des risques pour vous et votre famille. Parce que cela, les autorités non chrétiennes savent qu'un baptême signifie un engagement public et clair, un positionnement devant le monde, devant la société, de ce que vous appartenez au Seigneur, de ce que vous êtes attaché à lui et à sa parole, et cela vous expose. Dans nos latitudes, ce n'est pas le cas. Pourtant, je sais que lorsque certains se font baptiser, des familles réagissent aussi. Il y a eu des personnes qui ont renoncé au baptême parce que lorsqu'ils l'ont annoncé à leur famille, il y a eu une levée de bouclier, il y a eu vraiment une opposition, des menaces même, et des menaces d'exclusion et de choses parfois même plus graves encore, et qui ont fait que certains ont renoncé. Le Seigneur cherche des disciples qui payent le prix de l'obéissance. Alors je fais appel, j'ai prié pour cela aussi, je fais appel à votre cœur, à votre choix, à votre capacité de choisir pour le Seigneur. Et lorsque nous choisissons pour Dieu, il y a des choix à faire. Il y a des choses à laisser en arrière, il y a des choses à mettre en priorité dans notre vie, et cela coûte toujours quelque chose. Le salut est gratuit, mais la marche en tant que disciple, ça coûte notre vie. Ça coûte beaucoup. Ça coûte beaucoup. C'est magnifique. Mais lorsque vous vous engagez, c'est là que vous voyez aussi les résultats. C'est là que vous voyez Dieu agir. C'est là que vous voyez que la foi fonctionne. Si vous êtes en arrière, eh bien, vous êtes comme un touriste qui observe certaines choses, mais qui aussitôt les a oubliées, où il n'y a aucun impact dans votre vie. Mais lorsque vous êtes au front engagé, eh bien, vous êtes au bénéfice des bénédictions et surtout de la puissance de Dieu. Maintenant, nous lisons un autre texte, Matthieu chapitre 3, verset 15. Que découvrons-nous dans ce texte? Nous voyons le baptême de Jésus. Et on peut se poser la question, Jésus avait-il besoin de se baptiser? Puisque nous allons voir bientôt que le baptême a une signification, c'est de laisser en arrière une vie ancienne pour renaître et se porter en avant vers une vie nouvelle. Est-ce que Jésus avait une vie ancienne? Avait-il une vie de péché? Non. Pourtant, il se fera baptiser. Regardez le texte. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « Mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus, alors qu'il n'a pas besoin, puis Jean le réalise bien, qu'il n'a pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus va lui dire « Laisse faire maintenant, il faut faire ce qui est juste. » Donc ce qui est juste pour Jésus, qui nous demande de le suivre dans ses traces, dans son exemple, c'est également juste pour nous. Il est notre exemple, il ne nous demanderait pas quelque chose qu'il n'aurait pas fait lui-même. Jésus va donc être baptisé par Jean-Baptiste et il va s'identifier déjà au début de son ministère, puisque c'est le début de son ministère, il va s'identifier à tous ceux qui vont se repentir, puisque Jean, c'est le baptême de repentance. Il va s'identifier alors qu'il n'a rien à se reprocher et le ciel s'ouvre immédiatement et le Père approuve ce qu'il fait. C'est pour ça que ceux qui prennent le baptême, vous allez vivre ça aussi. Une approbation intérieure et extérieure de ce pas et vous allez partir avec une joie, une force, une dynamique qui va vous pousser en avant et qui va toujours vous aider à ne pas revenir en arrière parce qu'il y a eu une coupure, il y a eu l'eau du baptême qui est comme un barrage de repartir en arrière vers quelque chose qui serait vraiment malheureux et qui déshonorerait l'Évangile. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Maintenant, troisième élément, premier élément, ce sont les deux versets de base qui nous engagent dans une obéissance à la volonté de Dieu. Deuxièmement, c'est l'exemple de Jésus. Et maintenant, nous baptisons par immersion totale. Alors, ce moment de l'immersion totale, ici, il y a un baptistère qui n'est pas visible en ce moment, mais Cette immersion totale peut se faire n'importe où, dans un lac, dans une rivière, dans un fleuve, dans une piscine publique, ça a été mon cas, la grande piscine dans la ville où j'étais à l'époque, et dans une baignoire, enfin bref, là où il y a de l'eau, et suffisamment d'eau, pour immerger quelqu'un, parce qu'il y a une grande et importante signification là-derrière. Il y a trois significations. La première, c'est que le mot baptême veut dire plonger dans, immerger. Baptizo en grec veut dire tremper. Comme on prenait un tissu et on le trempait dans la teinture, c'était baptisé dans la teinture. La teinture rentrait dans le tissu était dans la teinture. Il était imbibé, c'est une immersion totale. Le mot baptiser veut dire plonger dans. Deuxième argument pour le baptême par immersion vient des Écritures où nous lisons, on ne va pas lire tous les textes, il y en a un peu trop, mais quand même Matthieu 3, 6, où il est dit « Il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. » Dans, ça veut dire qu'ils étaient dans le fleuve. Ils n'ont pas été baptisés avec un peu d'eau seulement, avec quelques gouttes d'eau, mais dans le fleuve. Matthieu 3, 16, quelques versets plus loin, eh bien Jésus, nous l'avons lu, Jésus sortit de l'eau. S'il est sorti de l'eau, c'est qu'il y est entré d'abord. Jean 3, 23, Jean baptisait là où il y avait beaucoup d'eau. Le texte le précise. Jean 3, 23, beaucoup d'eau. Et puis encore dans Acte 8, 38, où Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et après, il est dit qu'ils sont remontés hors de l'eau. Acte 8, 38, je vous le dis juste en vitesse. Ils arrivaient à un point d'eau. L'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il ordonne d'arrêter de char. Tous deux descendirent dans l'eau. Philippe, ainsi que l'eunuque, le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau. Donc voilà, on a les textes, quand même, quelques textes qui nous montrent qu'il y a eu cette précision de l'Écriture pour dire qu'ils sont dans l'eau et pas seulement avec quelques gouttes d'eau. Mais maintenant, j'aimerais vous demander de tourner avec moi dans un texte fondamental sur la signification du baptême dans Romains 6. Romains 6, c'est vraiment le texte qu'il faut donner à quelqu'un qui cherche à comprendre pourquoi le baptême. Romains 6. Et nous lisons à partir du verset 3, juste quelques versets, pas très longs, mais juste quelques versets. « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous tous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est quitte du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons aussi que nous vivrons avec lui, sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus. La mort ne domine plus sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et maintenant, il vit et il vit pour Dieu. Ainsi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Le texte qui va avec, c'est Colossiens 2, 12. Je vais aussi le dire ici, Colossiens 2, 12. Il nous est dit... Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. La vraie signification du baptême est touchée par le texte ici. Donc, l'acte du baptême se fait au début de notre vie chrétienne où nous voulons nous attacher au Seigneur, enseveli avec lui, ressuscité en lui et avec lui. Je reviens à mon texte de Romains 6 à nouveau, où il est justement déclaré ceci. Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui. Je parcours les versets 4, 5. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui. Verset 8. Nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Est-ce que vous remarquez cette union, cette unité, cette adhésion, cette liaison avec le Christ, justement, qui est appuyée et soulignée trois fois en rouge au moment du baptême, en lui, avec lui. Ça revient partout. Nous sommes donc connectés, attachés, verrouillés, vissés, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, mais on est avec lui dans sa mort. Donc je suis plongé dans l'eau, je suis à l'horizontale dans l'eau, je suis couché comme un mort dans un cercueil. Excusez-moi le terme, mais c'est vraiment une tombe liquide. Une tombe liquide. Vous êtes couché comme dans la mort, toujours attaché au Seigneur. Mais si vous êtes attaché au Seigneur dans sa mort, le Seigneur n'est pas resté dans la tombe. Vous êtes relevé par la puissance de Dieu, toujours attaché, et vous avez part à la résurrection. Donc Jésus nous dit, si tu es d'accord de mourir, moi je te ressuscite. Si tu es d'accord de mourir, je te ressuscite. Mais nous ne voulons pas passer par la mort, on n'aime pas ça. Personne n'aime ça. C'est pour ça que le baptême est un acte visible de quelque chose dans laquelle on a de la peine humainement. Mais Jésus nous dit, il n'y a pas d'autre solution parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas résoudre le problème du péché autrement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas juste rafistoler ta vie en t'améliorant un tout petit peu. Il faut que ça passe par la mort. C'est le message de Vendredi Saint et de Pâques. Il faut une mort pour qu'il y ait une vie toute nouvelle. Il faut que la chenille passe par un processus, qu'elle devienne chrysalide, qu'elle devienne un papillon. Elle peut pas devenir un papillon autrement que passer par une vraie transformation. Donc en étant attachés, un, dans la mort, nous sommes un en la résurrection. Donc la vie nouvelle, c'est notre vie véritable, dans la mesure où on est d'accord de mourir avec Christ. Donc ça veut dire que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été ensevelis avec lui. Vous imaginez, quand Jésus est mort à la croix, je vous montre ici la croix, il y a 2000 ans, il a pris mes souffrances, il a pris mes péchés, mais il a aussi pris ma vieille nature, ma nature de péché, ma tendance et mon fonctionnement de péché que j'ai hérité depuis la création, qui est en moi comme un virus dans un ordinateur, qui est en moi depuis Adam déjà. C'est quelque chose que j'hérite de père en fils. De toutes les générations, j'ai en moi ce virus du péché. Et Jésus a pris ma vieille nature sur lui. Et j'ai été, lorsqu'il est mort, je suis mort avec lui. C'est dans la foi que je proclame ça aujourd'hui. Donc dans la foi, j'actualise quelque chose qui a eu lieu effectivement et physiquement il y a 2000 ans. Et par le moment du baptême, justement, je l'actualise puissamment. C'est pour ça que c'est un acte spirituel que le diable déteste. Parce qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas la vie de résurrection. Il veut nous empêcher que nous puissions vraiment vivre cette transformation et recevoir la puissance de vie nouvelle en Christ. Parce qu'à la croix, il a été vaincu. C'est pour ça qu'il n'aime pas le baptême. Il va vous empêcher de vous faire baptiser, il va vous mettre les bâtons dans les roues, mais soyez vainqueurs. Vous pouvez triompher chacun, quel que soit votre niveau spirituel, vous pouvez triompher de tout cela facilement si vous restez rattaché au Seigneur et si vous restez rattaché à la communauté, ça va vous aider énormément. Donc, dans cette union avec Christ, eh bien, nous sommes un avec lui dans la mort et la résurrection et nous partons pour vivre pour toujours avec lui. Nous avons une image très intéressante dans l'Ancien Testament qui est le passage d'Israël hors de l'esclavage d'Égypte vers le pays promis. Et lorsque la Bible parle de cela dans 1 Corinthiens, je ne vais pas le lire, mais lorsqu'Israël a déménagé hors du royaume de l'Égypte où Pharaon dominait, eh bien ils sont passés par la mer Rouge, c'était de l'eau. Et par Moïse et par la puissance de Dieu, l'eau s'est ouverte, un chemin a été ouvert, ils sont passés au travers, et la Bible parle que c'était l'image du baptême. Et puis après, ils sont sortis, l'eau est revenue et est redevenue une barrière infranchissable pour finalement ne plus revenir en arrière. Même dans le désert, lorsqu'ils avaient envie de revenir en arrière dans leur découragement et dans leur déception, dans leur incrédulité, eh bien, ça aurait été quand même compliqué de revenir en arrière parce qu'il fallait repasser par la mer Rouge. Donc, il y a une deuxième chose qui est très intéressante à souligner. Au moment où Israël part, Pharaon veut rattraper Israël. « Hé là, vous êtes à moi !» Et lorsque le chrétien veut obéir, l'ennemi veut dire « Hé là, pas trop vite mon ami, je ne vais pas te faciliter la tâche. » Et lorsque Pharaon, avec son armée, a poursuivi Israël, eh bien, il voulait faire le même parcours et l'eau est devenue une eau de jugement. Ils sont morts, ils ont été arrêtés, stoppés net par la puissance de Dieu dans cette eau du baptême. Donc le baptême est pour nous aussi un jugement de notre péché, un jugement de notre vieille nature. L'ennemi est jugé au travers de cette eau du baptême qui est une barrière qu'il n'aime pas et dans laquelle il est stoppé, il est arrêté. Donc c'est ce que j'appellerais l'identification avec Christ. C'est vraiment le sens profond du baptême. Ça c'est Romains 6. Et Colossiens 2:12 sont les textes vraiment ensevelis avec lui, ressuscités avec lui et en lui. Retenez ces deux textes et vous avez toute l'explication du baptême là-dedans. Donc cet acte spirituel qui nous montre que cette coupure avec une vie, un passé sans Dieu, un passé de péché, un fonctionnement hors de la volonté de Dieu, doit être clairement arrêté. Donc le baptême est pour des gens décidés, ce n'est pas pour des gens qui hésitent tout le temps, qui veulent avoir les bénédictions, qui veulent en même temps faire ce qu'ils veulent et continuer à vivre dans une vie qui n'obéit pas au Seigneur et qui est une vie finalement misérable parce qu'elle est à cheval entre la volonté de Dieu et ma propre volonté. Eh bien Dieu dit « Attends et décide-toi d'abord, puis ensuite tu te baptiseras ». Il ne faut pas se baptiser lorsqu'on est encore indécis. Il faut faire un choix. C'est comme un mariage. On ne peut pas être marié, en tout cas sous dans nos latitudes, avec trois femmes en même temps. Vous avez un partenaire, un et un seul, et vous vous mariez avec lui pour la vie. Vous faites une alliance avec lui. Et ça, c'est un autre aspect du baptême, c'est que c'est une alliance, un engagement. Je m'engage publiquement avec le Seigneur. Prenons encore juste un texte qui appuie encore ce que je viens de dire par rapport à Romains 6. Nous lisons dans Éphésiens 4, 21. « Si du moins vous avez entendu parler de lui, donc je prends au milieu de la phrase, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est-à-dire de vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par des convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Les termes « se dépouiller » et « se revêtir » sont clairement exprimés dans ce texte, mais c'est aussi exactement l'image du baptême. On se dépouille de quelque chose. Et on se revêt d'autres choses. C'est pour ça que les baptisés se présentent souvent en habits blancs. Ils ont enlevé les autres habits, ils ont mis des habits neufs, des habits blancs, qui sont l'image d'une vie nouvelle, d'une pureté nouvelle. Et ce dépouillement des choses anciennes doit être marqué pour être revêtu de quoi ? De Christ. Revêtu de Jésus, de sa mentalité, de son caractère, de sa personnalité, de ses valeurs. Nous avons besoin d'être revêtus de quelque chose qui vraiment nous tire en avant dans cette vie nouvelle. Dépouillés d'eux pour être revêtus d'autre chose. C'est cela qui a été l'image du baptême et qui est d'ailleurs bien expliqué dans Galates, chapitre 3, verset 27. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Voilà, c'est clair. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates, chapitre 3 et le verset 27. Je suis caractérisé par un nouvel habit. On dit bien que l'habit ne fait pas le moine. Cependant, il faut que ma nouvelle nature soit vraiment le reflet de ma vie nouvelle. Je ne peux pas jouer avec ça, je ne peux pas jouer aux chrétiens, je ne peux pas produire des éléments de la vie nouvelle alors que ce n'est pas authentique. Il faut que ce soit le baptême est pour des gens qui sont nés de nouveau, qui sont vraiment convertis, qui sont vraiment touchés et transformés à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc je termine gentiment par ce petit rappel que nous avons donc d'abord un acte d'obéissance, ensuite un acte d'identification avec Christ dans sa mort et sa résurrection. Nous avons ensuite cette confession de foi publique. C'est un temps public, comme un mariage est public devant l'état civil, même si vous n'êtes que 4 personnes, à savoir vous, votre partenaire et les 2 témoins. C'est le minimum qu'il faut avoir devant l'état civil. C'est public quand même, ça se fait devant la société. Vous pouvez bien sûr aussi inviter 1000 personnes. Puis vous aurez une grande foule qui sera vos témoins. Mais c'est public. Un baptême ne se fait jamais en secret. Il y a quelque part une confession publique indispensable. Si vous confessez Jésus devant les hommes, Jésus vous confessera devant son Père. Matthieu 10, verset 32. D'ailleurs, Philippe, qui était seul avec l'eunuque dans le désert, il devait confesser quelque chose. Si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, alors il dit... Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Sur cette parole, il a été baptisé. C'est pour ça que nous baptisons conformément à votre témoignage et sur ordre de Jésus-Christ. Nous disons les 2 choses. C'est un ordre de Jésus-Christ, mais aussi un témoignage que le candidat au baptême va faire. Donc c'est une confession de foi, c'est un engagement public, je l'ai dit. Et on peut même aller jusqu'à dire, mais la signature, elle est où? Alors je ne vous signez pas un papier, mais vous signez avec tout votre corps. Vous signez avec tout votre... C'est votre corps et dans l'eau qui vous recouvre un instant et qui vous ressortez de l'eau, c'est ça votre signature que le Seigneur va enregistrer et c'est votre engagement en personne. Je termine dans Acte 22, verset 12. Acte 22, verset 12. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'heure même, je recouvrai la vue et je le vis. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé. » Et lavé de tes péchés en invoquant son nom. Quel texte clair, c'est magnifique. On pourrait faire toute une prédication là autour, car ce que Ananias a dit à Saul de Tarse, devenu l'apôtre Paul, cela peut vraiment nous concerner ce soir. Et je vous le rappelle simplement, mon frère, que tes yeux s'ouvrent ce soir, recouvre la vue. Tu es destiné à connaître la volonté du Seigneur, à voir le Seigneur. Et à entendre sa voix. Tu seras son témoin devant les hommes, non pas parce que tu vas copier un témoignage, mais de ce que tu as vu et entendu. Ton expérience, c'est ça ton témoignage. Et maintenant, pourquoi tardes-tu? On pourrait se poser, je rencontre beaucoup de gens qui disent « mais je ne me sens pas prêt ». Mais quelque part, il faut avoir une conviction dans son cœur, mais en même temps, il ne faut pas non plus repousser la décision tout le temps. Parce que si ce n'est pas... demandez que vous soyez arrivé à un certain niveau de compréhension spirituelle pour prendre votre baptême. Soyez simple, mais clair et obéissant. Ça suffit déjà. Et nous voyons dans les actes que les gens étaient assez rapidement baptisés, simplement sur base de leur foi et de leur conversion à Jésus. Amen.